King Junior avec jouet à 4€ prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule Glouglou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Burger King!
Quand vous avez un brique glace, ça vous paraît compliqué à gérer? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Il est 19h sur Europe 1, le journal Brandon Ouarette.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, une délégation du Hamas emmenée par le numéro 2 se rendra demain en Égypte pour répondre à la récente contre-proposition d'Israël en vue d'une trêve dans la bande de Gaza et la libération d'otages. Les campus américains, d'ailleurs, sont toujours secoués par des manifestations pro-palestiniennes. Près d'une centaine d'établissements sont concernés, parmi lesquels les prestigieuses universités d'Harvard, de Yale ou de Columbia qui sont considérées comme l'épicentre du mouvement. La direction négocie avec les manifestants pour démanteler le campement qui a été dressé. Mais à Vivafried, dans d'autres universités, c'est la manière forte qui a été employée, comme à l'université de Northeastern à Boston.
Oui, hier matin à l'aube, des policiers anti-émeutes ont pénétré dans le campement établi par les manifestants à Boston. Ils l'ont démantelé et ont arrêté plus d'une centaine de personnes. Ceux qui pouvaient prouver qu'ils sont bien étudiants ont été relâchés, mais seront sanctionnés par la direction. Pour les autres, direction la prison. Les responsables de l'université justifient leur fermeté en rapportant que des propos antisémites auraient été tenus, notamment des cris de mort aux juifs. Pas question après ça de laisser la situation se dégrader encore plus. À Columbia aussi, les manifestants sont sous le feu des critiques, après la publication d'une vidéo dans laquelle l'un des meneurs du mouvement, Kimani James, tient des propos extrêmement violents.
Les sionistes ne méritent pas de vivre. Je suis très à l'aise quand je dis que ces gens doivent mourir. Soyez heureux que je ne sois pas dehors en train d'assassiner des sionistes.
L'étudiant a depuis été exclu, mais de plus en plus, les universités semblent vouloir reprendre le contrôle et ne plus tolérer les campements. Depuis le début du mouvement, plus de 700 arrestations ont eu lieu dans tout le pays.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Elle veut se poser en leader des conservateurs européens. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a annoncé qu'elle se présenterait en tête de son parti pour les élections européennes. Fratelli d'Italia était arrivée en tête des élections en 2022 en Italie avec 26% des suffrages, des intentions de vote qui restent à ce niveau à 6 semaines des élections européennes. L'actualité, c'est aussi la France et ses violents incidents qui ont éclaté hier soir à Givors, près de Lyon. Une trentaine de jeunes cagoulés ont brûlé des voitures de police et lancé plusieurs tirs de mortier sur les forces de l'ordre. Un policier venu en renfort a d'ailleurs été blessé à l'oreille, Noémie Loisel.
Vers 22h15 hier soir, une trentaine de jeunes cagoulés auraient mis le feu à un parking fermé de la mairie, brûlant deux véhicules de la police municipale et l'un des bâtiments annexes de la mairie. À l'intérieur, le gardien et sa fille sont retrouvés indemnes. Sur le marché ce matin, les habitants ne décolèrent pas.
C'est pas normal.
C'est de pire en pire. Maintenant, on s'attaque à la police municipale et s'attaque aux gens qui devraient respecter. C'est inadmissible.
Ces incidents feraient suite à l'interpellation de 5 mineurs âgés de 12 à 17 ans qui auraient agressé quelques heures plus tôt un autre mineur âgé de 14 ans. Face à cette montée de violence chez les jeunes, le syndicat Alliance Police Nationale demande des moyens supplémentaires. Alain Barberis est le secrétaire départemental du Rhône.
Il nous faut plus d'effectifs sur le terrain, mais également, parce qu'il ne faut pas les oublier, ce sont nos enquêteurs. Et ensuite, il faut que la réponse pénale soit à la hauteur par rapport à des jeunes aujourd'hui, notamment mineurs, qui souvent sont dans la récidive, puisqu'ils ont un sentiment d'impunité.
Des renforts de la police nationale seront sur place jusque dans la nuit de dimanche. La CRS 83, spécialisée dans les violences urbaines, est prête à être déployée. Givors, Noémie Loisel, Europe 1.
Noémie Loisel, correspondant donc pour Europe 1 dans la région lyonnaise. Du sport et du judo, l'équipe de France sacrée championne d'Europe cet après-midi à Zagreb, l'équipe de France mixte pour la deuxième fois de son histoire. Victoire 4-0 face à la Géorgie, tenante du titre. Et en football féminin, demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. Le match vient de se terminer et les Lyonnaises se qualifient pour la finale après leur victoire 2-1 sur la pelouse du Parc des Princes. Rendez-vous le 25 mai à Bilbao face à Barcelone. Les Lyonnaises tenteront de décrocher un 9e titre européen. Et chez les hommes, suite de la 31e journée de Ligue 1, le match entre Rennes et Brest vient de se terminer et les Bretons ont assuré leur qualification au terme d'un match fou, Cédric Chasseur. 5-4.
Oui, 9 buts au total dans ce match complètement dingue avec des retournements de situation. Rennes a mené très rapidement 2-0 grâce à un doublé de Kalumendo dans les 10 premières minutes. Mounier a permis à Brest de croire à un retour à la 11e. Ensuite, il y a eu un but d'Omari contre son camp au retour des vestiaires. Et ensuite, ça s'est vraiment enchaîné. Satriano qui marque à la 54e. Théâtre qui permet à Rennes de revenir à 4-2 après le but de Camara à la 66e. Terrier 79e. Et c'est finalement Brassier à la 97e qui offre à Brest une victoire historique parce que Brest ce soir est assuré de jouer au moins une Coupe d'Europe la saison prochaine. La 5e place au pire pour les Brestois en fin de saison. Mais évidemment, ils espèrent mieux. Ils peuvent encore jouer la Ligue des Champions dès la saison prochaine.
Merci Cédric. Et la 31e journée de Ligue 1 se termine ce soir. Lyon reçoit en ce moment Monaco et à 21h, Marseille accueille Lens.
Europe 1,
19h06. Très bon début de soirée avec Nicolas Carreau pour La Voix est libre.
Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
19h, 20h.
La Voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, un prix Goncourt, encore un, c'est chaque semaine maintenant. Visite de bibliothèque, nous partirons chez la navigatrice Isabelle Autissier. Et puis tout à l'heure, évidemment, les chroniqueurs de l'émission nous rejoignent pour la bande dessinée et la littérature jeunesse. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Recordman du prix Goncourt pour l'anomalie, 1 300 000 exemplaires vendus, c'est bien au-dessus de la moyenne des Goncourt. C'était plus ou moins de la science-fiction. Depuis, on attendait Hervé Le Tellier, connu pour ne jamais écrire le même genre de livre. Eh ben, on n'est pas déçu. Le voilà de retour chez Gallimard avec un récit intitulé « Le nom sur le mur ». Le nom, c'est celui d'André Chex, C-H-A-X. On dit Chex, mais sans trop appuyer sur le X. Bonjour Hervé Le Tellier.
Bonjour.
Vous trouvez ce nom, André Chex, dans la Drôme, sur votre maison, à côté de Dieulfi. Une maison natale, c'est l'expression que vous utilisez quand vous avez briefé l'agent immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va revenir sur le nom, mais quand même, ce coup de la maison natale, j'ai bien aimé.
Oui, j'ai dit à mon agent immobilier, celui qui cherchait pour moi une petite maison, je lui ai dit que je cherchais une maison natale. Donc ça excluait de fait les magnaneries, les bergeries, les maisons d'architectes, les villas, etc. C'est quelque chose où j'aurais pu, au fond, avoir une naissance, une origine, une filiation. Et c'était une définition qui était une définition qui me correspondait, parce que je me sens un peu sans ascendance, et j'avais envie de trouver un lieu qui pourrait faire office de. Et ce lieu y a correspondu tout de suite. Je suis rentré dans la maison, j'ai vu qu'elle me plaisait. C'était un petit relais de poste, un gros bloc de 9 mètres sur 9 mètres sur 9 mètres. Et j'y suis entré, je l'ai tout de suite acheté, c'était pas très cher. Et j'ai vu que ça me correspondait très vite. En retirant les céramiques qui étaient sur le mur,
de l'ancienne propriétaire qui était céramiste,
j'ai vu que sous une des plaques, la plus à l'ouest, il y avait un nom qui était celui d'André Chex. Et ce nom était gravé à la pointe, dans le crépi. Il est resté invisible pendant tout le temps, il y avait ces céramiques. Et une fois qu'elles ont été retirées, je n'ai cessé de le voir. Mmh. Et pendant le confinement, donc 4 ou 5 ans plus tard, alors que je revenais de la boulangerie, j'ai vu son nom sur le monument aux morts, Chex André, 1924-1944. Et on était en 2020-2021, j'ai décidé qu'en 2024, j'allais peut-être écrire un livre sur son centenaire, parce que je trouvais qu'un maquisard, parce que c'était forcément un maquisard, quand on meurt à 20 ans En 1944, on est forcément un jeune maquisard ou un fusillé, mais a priori plutôt un maquisard. On mérite d'avoir un livre à son, pour lui, une sorte de tombeau. Quoi.
Mmh. Bon, là, il n'y a pas de suspense, on apprend assez vite que c'est un maquisard qui a été tué à 20 ans.
Non.
En revanche, ce n'est pas une biographie.
Non.
C'est pas tout à fait. Mais il y a eu quand même une enquête, c'est-à-dire que vous avez récolté des éléments, etc. On ne voit pas l'enquête vraiment, vous ne nous dites pas, voilà, je vais dans telles archives, je vais contacter telle personne.
Je suis à distance. C'est-à-dire que ma position par rapport à André Schex, c'est celle d'un homme qui n'a pas envie de raconter l'enquête, qui n'est pas si compliquée que ça en plus, qui ne mérite pas d'être racontée, dans le sens où très rapidement, beaucoup de choses me sont données. J'ai la chance de rencontrer les bonnes personnes qui vont me donner, par chance, la boîte André Schex, qui leur a été confiée par le fils de Marcel, qui est le frère d'André Schex, Marc-André Schex, qui leur a donné, quelques années plus tôt, une petite boîte qui est consacrée à son oncle. Et j'hérite de ça. Et dans cette boîte, il y a le fume-cigarette d'André Schex, la photo de lui avec son frère, des photographies, beaucoup... sa carte d'identité, sa carte de travail, des tracts des FTP, des tracts des francs-tireurs partisans. Et donc, je dispose de tout ça, et qu'en faire ? Quand on a devant soi presque la vie de quelqu'un et tout ce qu'il en reste, on se sent obligé de travailler avec, et on a aussi un fil directeur qui est de suivre les objets eux-mêmes, qui disent des choses, qui racontent... il y a sur le dos des photos, il y a des phrases écrites par André Schex à sa fiancée, il y a sa fiancée qui écrit à André Schex. J'ai pas de lettres entre eux, mais j'ai des lettres de André Schex à ses parents, j'ai des choses comme ça. Donc je suis ce canevas, qui est un canevas naturel, et il est naturel que moi je disparaisse alors que j'ai tout ce qu'il faut pour travailler.
Mais ça, c'est quand vous avez récolté les éléments que vous avez pensé ça. Mais Hervé Le Tellier, est-ce que vous avez voulu au départ, quel était le projet en fait ? Est-ce que vous vouliez au départ faire un truc à la Grégoire Bouillet, c'est-à-dire tout noter, faire 800 pages,
J'aime énormément ce que fait Grégoire Bouillet.
Qui sont des livres
monumentaux, le dossier
900
M.
900 pages.
Oui, bien sûr. Même les livres antérieurs, qui sont des livres plus petits, sont très, très beaux. Non, j'aime beaucoup ce que fait Grégoire Bouillet, j'aime beaucoup ce que fait Philippe Génada. J'étais pas dans cette démarche parce que, une fois de plus, les choses m'avaient été données. Vraiment, assez facilement, j'ai retrouvé la fille de la fiancée d'André Schex, qui m'a elle aussi donné une enveloppe. Et j'étais sûr, et d'ailleurs c'est le cas, d'avoir absolument tout ce qui avait pu subsister de la vie d'André Schex si je l'avais entre les mains. Et je l'ai eu très sincèrement en quelques semaines. Donc l'idée de prendre une position qui serait une position fausse, qui est celle d'un enquêteur, d'un Sherlock Holmes qui va chercher des informations qu'il trouve très facilement, n'était pas... C'était devenu une posture, quoi. Et je voulais pas être postural dans un livre qui est consacré à un jeune résistant. Donc, je suis parti sur ce travail de réflexion sur ce que représentait cette vie, dont j'avais une fois de plus beaucoup d'éléments devant moi, et j'ai décidé de suivre la logique, y compris narrative, y compris digressive, d'essayer de comprendre qui il était, dans quelle ville il vivait, qu'est-ce qui se passait autour de lui, qu'est-ce qu'il voyait au cinéma,
qu'est-ce qu'il écoutait comme musique,
voilà, toute une série de choses sur lequel j'avais des informations et des éléments de réflexion. J'avais par exemple tout le programme du cinéma de Dulfi, qui a disparu, il y en a un nouveau, mais cet ancien cinéma qui s'appelle l'Eden, grâce au CNC, une fois de plus, là aussi, enquête très rapide, c'est-à-dire que j'ai posé des questions et très gentiment, les gens du CNC ont retrouvé des choses pour moi. C'est-à-dire que vraiment, ils ont fait les efforts d'aller chercher... des petites choses qui m'ont envoyé, j'avais une partie du programme.
On apprend d'ailleurs qu'à Noël 41, on projetait le retour de Zorro et le signe de Zorro, par exemple.
C'est-à-dire que l'Allemagne est en guerre avec les États-Unis, et la programmation, c'est un film américain qui est un film, théoriquement interdit. Il y a également un film avec Michel Morgan et Jean Gabin qui est projeté également à Noël 41, enfin pour le Nouvel An 41. Alors que Michel Morgan et Jean Gabin sont partis aux États-Unis et que Jean Gabin vient de faire un article dans un journal américain qui s'appelle Escape from Nazis, où il raconte qu'il a échappé aux nazis, qu'il est venu combattre aux États-Unis.
On a déjà digressé, mais il faut absolument qu'on parle d'André, puisqu'on est là pour lui. Moi, j'ai eu l'impression de rencontrer un vrai type et de lui serrer la main, au moins son fantôme. Le nom sur le mur, c'est votre nouveau roman, Hervé Le Tellier. J'ai pas précisé, mais ça fait 180 pages, avec des images en plus. On se retrouve dans un instant.
Europe 1.
Yeah, yeah. Whoa. Merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4 euros, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4 euros, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule Glou Glou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match.
Pour les 75 ans de Paris Match, nous vous proposons un numéro événement. Les 7 acteurs historiques du Splendid réunis pour un entretien et des photos exclusives. Un reportage exceptionnel avec les gueules cassées de l'armée ukrainienne et les tableaux de Notre-Dame de Paris entièrement restaurés.
Paris Match, numéro spécial anniversaire de 220 pages, en vente 3 semaines.
Quand vous avez un brique-glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
On écoute Joe Cocker sur Europe 1.
I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do.
C'était Joe Cocker sur Europe 1.
Europe 1, 19h-20h, la voix est libre.
Nicolas Carreau.
La voix est libre continue, Hervé Le Tellier est toujours avec nous pour son nouveau roman, récit, enfin son nouveau livre, Le nom sur le mur, c'est chez Gallimard. Je l'ai dit juste avant, Hervé Le Tellier, il y a des photos dans ce livre-là. À quel moment vous prenez la décision de mettre les photos d'André ? Parce que je rappelle que c'est André Scheck, c'est un nom que vous trouvez sur le mur de votre maison à Dieulfi, enfin juste à côté, et puis vous décidez d'enquêter rapidement sur lui, d'essayer de rechercher des choses, et puis vous reconstituez sa vie, mais aussi tout le contexte de l'époque. Il est mort à 20 ans en 44, et il était maquisard, et vous reconstituez aussi la vie culturelle de Dieulfi, ce qu'il pouvait écouter à la radio, la musique, sa fiancée, etc. Mais donc les images.
Les images s'imposent. Je les ai. Si je commence à dire à mon lecteur que j'ai des images mais que je lui montre pas, je trouve ça non seulement frustrant, non seulement injuste, mais indécent. Parce que c'est un cadeau qu'on me fait, quoi. On me fait le cadeau de donner la vie d'André Scheck. Je vais pas le garder pour moi, je montre ce que j'ai. Je montre pas tout parce que j'en ai un peu trop, mais j'ai presque une soixantaine de photos, donc je vais pas en mettre une toutes les pages, mais toutes les deux, trois, quatre pages... J'essaie de montrer des choses qui sont directement en rapport et qui disent qui il est, qui le montrent en train de vivre. On le voit sur un cheval, on le voit en train de faire de l'équilibre sur un mûrier, on le voit avec sa fiancée, il marche dans la rue. Tout ça, j'ai envie de le montrer.
Est-ce que vous le montrez aussi parce qu'il a une sacrée gueule ?
Oui, il a une gueule.
Enfin, il a une gueule d'acteur.
Oui, je l'ai appris en découvrant finalement les images qu'on m'a données. Je vois qu'il a en plus quelque chose de très franc dans le visage, de très ouvert, de très sympathique. Il y a une image que j'ai mise où il est entre son frère et son cousin, où il est magnifique. Enfin, c'est vraiment entre Burt Lancaster et Jean Gabin, quoi.
Il est en équilibre sur un cheval aussi.
Il est très c'est un homme qui est un rapport. C'est un fils de boulanger de la paillette. Il est dans la nature. Il a certainement, bien sûr, un cheval. Il a d'autant plus qu'à l'époque, je rappelle que l'essence étant extrêmement rationné, il y a un retour des bêtes de trait et de l'équitation. Voilà, tout à fait naturellement. Donc c'est un homme qui sait monter à cheval, qui sait monter debout sur un cheval. Donc c'est dommage de pas donner ça à voir au lecteur, parce que c'est quelque chose qui, une fois de plus, m'a été offert et que les cadeaux, c'est fait pour être partagé.
Hervé Le Tellier, on rencontre petit à petit en fait cet André Dédé pendant ce livre. On se dit aussi souvent que on sait qu'il est mort à 20 ans et qu'il a une densité quand même dans sa vie. On se dit, moi à 20 ans, est-ce que j'avais fait tout ça ?
Oui.
Et bon, évidemment, c'était pas le même contexte.
Non, mais on se pose la question forcément. Donc c'est un parallèle que j'ai pas envie non plus d'esquiver. Et par exemple, quand je calcule qu'il est mort exactement à 20 ans, 2 mois et 30 jours, ce qui est la définition par l'armée de ce que c'est qu'une vie d'homme.
C'est dans le rapport de sa mort, en fait.
En rapport de sa mort, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'on faisait soi-même à 20 ans, 2 mois et 30 jours ? Et j'ai retrouvé cette date, et je me suis dit, voilà, je savais exactement ce que je faisais à cette date. Et j'ai évidemment fait des parallèles qui me sont, à ce moment-là, sautés au visage entre ma propre vie et la sienne, qui sont des parallèles parfois de deuil, et qui... sans que ce soit une dénégation, m'avait été complètement occulté par le travail. Je n'avais pas du tout vu, en travaillant, qu'il y avait ces parallélismes possibles. Donc ça m'a touché. Et puis, l'autre chose qui est intéressante lorsqu'on travaille sur un inconnu, c'est, en fait, on est... Ce que c'est la différence entre le destin et la destinée, quoi. Il n'a pas de destinée, il n'y a pas de... C'est juste un destin interrompu, un destin tragique, mais il y a d'autres possibles. Je n'ai pas voulu aller trop dans les autres possibles, trop réfléchir à ce qui aurait été possible pour lui.
Un tout petit peu, mais...
Mais un tout petit peu. Et je trouve quelque chose dans cette enquête, quelque chose que je savais, mais dont je n'avais pas pris la mesure, c'est que dans ce même petit village de 400 habitants, 350 habitants à l'époque, il y a un homme qui a simplement 5 ans de plus, qui est également dans le maquis, et qui s'appelle François Soubéran. Et François Soubéran, c'est le grand frère Jacques, voilà. Celui qui, chez les
Plastron
frères Jacques,
rouge.
Plastron rouge,
fait le mât. Je les ai regardés différemment. Ouais.
Voilà, il fait le mât dans la... le Marigène est un beau bateau. Et c'est un acteur. Alors que il remonte à Paris en 1944 avec la même, le même régiment que André Chaix. Lui ne meurt pas dans cette bataille de Grignan, il va remonter jusqu'à Paris et il va rester à Paris pour devenir un des frères Jacques. On peut donc imaginer pour un jeune homme de 20 ans un autre destin, et je ne l'ai pas vraiment fait, mais j'ai mentionné que c'était possible.
Ça, c'est pour illustrer le destin en Hervé Le Tellier, mais même si vous dites que le destin, en substance et de mémoire, n'est qu'une vaste plaisanterie, finalement. Mais, alors, François Soubeyron, c'est pour illustrer le destin en parallèle, mais c'est aussi une figure incroyable qui passe par là.
Oui.
Et puis, il y a aussi Henri Rocher. Qui est aussi Adieu le Fils, qui est l'auteur de Jules et Jim,
oui.
Le roman, pas le film.
Oui. Alors, Henri-Pierre Rocher, c'est une figure très discrète. Je pense que les auditeurs, parfois, ne connaissent pas son nom, c'est normal.
Moi, je ne le connaissais pas.
Henri-Pierre Rocher ?
Non, je ne l'avais jamais lu. Je ne savais pas que c'était un roman, Jules et Jim.
Ah, alors il a écrit deux romans. Il a écrit les deux romans qui ont donné naissance aux deux films de Truffaut, qui s'appellent L'Anglaise, Les deux Anglaises et le Continent, et bien sûr, Jules et Jim. C'est un roman qui raconte sa vie. Henri-Pierre Rocher est l'ami intime de Franz Hessel, et ils sont tous les deux amoureux de la même femme, Hélène.
Le père de Stéphane Hessel.
Et voilà, et qui est le père de Stéphane Hessel. Et lorsqu'en 1941, le père de Stéphane Hessel meurt, Franz Hessel, qui va recueillir le fils de Franz, Stéphane Hessel, c'est Henri-Pierre Rocher, qui va donc devenir le père adoptif de Stéphane Hessel. Donc c'est une figure incroyable, Henri-Pierre Rocher. Et il habite à Dieulefit. Il habite à Dieulefit, il fume la pipe, exactement comme fume également la pipe André Chaix, et on me dit qu'André Chaix est très élégant en fumant la pipe, je tombe sur une photographie d'Henri-Pierre Rocher fumant la pipe, où il est très élégant.
Oui, mais et vous forcément, avez trouvé aussi une petite un porte-cigarette d'André Chaix,
aussi,
fabriqué
aussi.
Avec une douille.
Oui, parce que fumer la pipe, ça ne se fait pas trop dans le maquis, il faut beaucoup de tabac, c'est très, très consommateur, la cigarette, ça l'est beaucoup moins. Et oui, c'est un fume-cigarette fait avec une douille. Oui.
Mais c'est ce que je voulais dire, en fait, en parlant, c'est que c'est aussi un livre qui aurait pu s'appeler Dieulefit, parce qu'on croise des personnalités comme ça.
Oui.
Dieulefit, c'est pas bien grand, quand même.
Non, c'est pas
dans la Drôme. Bon, c'est connu, mais quand même.
C'est une petite ville. C'est une toute petite ville de 3000 habitants, et au moment de 41 jusqu'en 44, c'est une ville qui passe de 3000 habitants à 4500. C'est-à-dire qu'une personne sur trois qu'on va croiser dans la rue, une personne sur quatre, peut-être, c'est un réfugié, soit un réfugié républicain espagnol, opposant communiste, juif, tous cachés par la population, tous abrités, tous protégés même par la population. Cette population qui n'est pas forcément extrêmement active dans la résistance, mais qui est active en tout cas dans la protection, qui a une tradition protestante, qui a une tradition huguenote, comme on dit, et qui va jouer un rôle très important pour faire émerger les maquis, protéger tous ceux qui veulent être protégés, qui va devenir la capitale intellectuelle de l'Europe, de la France, comme disait Simone Le Fébur, qui est une des pianistes célèbres à l'époque, réfugiée là-bas, puisqu'il y a Emmanuel Mounier, Pierre Segers, il y a un nombre de gens incroyables qui sont là-bas.
Restez avec nous, Hervé Le Tellier. On rejoint André Chaix dans un instant et toute l'histoire qu'il charrie avec lui. Sur Europe 1, à tout de suite.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneau. Je vous donne rendez-vous demain de 19h à 21h pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1 Soir, présenté par Pierre de Villeneau.
Alors rendez-vous demain de 19h à 21h sur Europe 1.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-Er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps, à découvrir dès maintenant au musée Guimet, avec Europe 1.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
19h, 20h, la voix est libre.
Nicolas Carreau.
Le nom sur le mur, c'est le nouveau livre d'Hervé Le Tellier chez Gallimard à la Blanche. évidemment, c'est l'histoire d'André Chaix. André Chaix, c'est un nom au départ que Hervé Le Tellier découvre sur le mur d'une maison qu'il vient d'acheter. Et il se dit qui c'est ce type-là et il commence à fouiller. Et puis il récolte des éléments, des archives, il rencontre de la famille. Et évidemment, il en parle dans le village parce que c'était un gamin du village. On apprend assez vite qu'il est mort en 44 et il était né seulement en 24, donc il est mort à 20 ans. Et puis au départ, c'est juste un livre d'histoire, hein, les 10 premières, 15 premières pages. Et puis petit à petit, on s'attache, on s'en fait presque un ami de cet André. Et parce que c'était, mais ça vous ne pouviez pas le savoir au départ, Hervé Le Tellier, c'est un héros extraordinaire, pas un héros au sens de héroïque, un héros de roman quasiment, un type avec une personnalité, avec une gueule, et puis un type assez intense. On a des lettres qu'il écrit à sa fiancée, ou des petits mots derrière des photos, et c'est un type extraordinaire. Simone, elle était hyper amoureuse.
Il y a quelque chose de très touchant dans le rapport qu'il entretient avec sa fiancée. D'abord parce que c'est amusant, parce qu'on voit bien qu'elle, elle doute un petit peu de ses déclarations, qu'elle pense, elle le dit elle le dit sans doute. Elle dit « je suis une amie passagère » et lui lui répond « mais non, tu n'es pas une amie passagère ». Il lui dit une phrase terrible, c'est « je t'aimerai jusqu'à ma mort ». Et ce qui est vrai, puisqu'il va mourir. Et on ne sait pas ce que sont les destins familiaux, les destins amoureux, peut-être qu'ils se seraient séparés. Mais en tout cas, elle restera pour jamais, à jamais, sa femme pour la vie, c'est sûr. Il lui restera sans doute très longtemps pour elle l'homme de sa vie, peut-être même pour toujours. Elle conserve quand même toute sa vie des enveloppes qu'elle confie à sa propre fille. Et 30 ans après sa mort, la fille de Simone Régnier conserve encore cette enveloppe rouge, ce que j'ai trouvé très touchant, en hommage à sa mère. Donc, conserver 30 ans les images d'un homme mort qui est le fiancé, le premier fiancé de sa mère, ça dit quelque chose de l'intensité de leur rapport.
Et sur l'envers d'une photo, Simone a écrit ça, « Regardez bien André et vous comprendrez ».
Oui. Alors,
ça peut être ce qu'on veut, mais
c'est magnifique.
Ah oui.
Et pour ma part, j'ai décidé de penser que c'était. Elle disait à sa famille, regardez, c'est l'homme que j'aime.
Pourquoi je l'aime si follement? Parce qu'il lui dit tout le temps, je t'aime follement. C'est aussi un livre sur la guerre, parce que donc on suit cet André, à la fin on le connaît quand même bien, en tout cas celui que vous avez décrit, celui que vous avez trouvé, qui n'était pas exactement celui qu'il était, mais peu importe, on s'y attache, mais surtout. En traversant sa courte vie, on traverse aussi l'histoire. Et évidemment, on est dans la pire des histoires. On est en 40, 41, 42, 43 et jusqu'à sa mort en 44. Et alors, vous avez des digressions sur la guerre très impressionnantes, comme si vous aviez eu envie de vider quelque chose sur ce que vous aviez envie de dire de la guerre, Hervé Le Tellier, et toutes les infos que vous aviez récoltées pendant votre vie. Vous appelez un nazi, pour être clair. Et puis vous revenez aussi sur... la méfiance qu'on doit avoir aussi aujourd'hui, illustrée par des expériences de psychologie sociale, notamment celle de Milgram, dont ça c'est avec le volt, qu'on connaît avec l'électricité,
oui, mais
il y a celle de la vague. Vous nous rappelez ce que c'est que la vague?
Alors la vague, c'est cette expérience qui a été faite dans les années 60 à Berkeley, dans un collège, dans lequel des élèves de seconde, enfin l'équivalent de seconde aux États-Unis, font l'expérience... sous la direction de leur professeur d'histoire contemporaine, de la soumission. D'abord, et ça se passe en 4 ou 5 jours. C'est devenu un documentaire, c'est devenu un film, un film allemand, c'est devenu un livre, c'est devenu aussi une série Netflix. Donc c'est devenu quelque chose qui est très connu, la troisième vague.
Parce que les élèves demandent pourquoi les Allemands ont suivi les nazis.
Et pourquoi les Allemands ont suivi les nazis. Et le prof leur fait faire une série d'exercices physiques d'abord. Puis ensuite, il leur dit, vous appartenez à un groupe qui est le groupe de la classe, ça s'appelle la troisième vague. Il leur fait faire le salut de la troisième vague. C'est le salut d'une vague avec la main levée et l'index est replié, donc les doigts repliés. Donc il leur fait faire parce que le salut nazi, mais ils ne voient pas le rapport entre la troisième vague et le troisième Reich. Et au bout de 4 jours, ils sont devenus de parfaits petits nazis. Et là, le prof qui a pris un peu peur de ce qui se passait, les réunit en faisant croire que c'est un mouvement politique nationale qui va déferler sur les États-Unis. Il les réunit dans le gymnase et il leur projette un film sur le nazisme. Et j'ai eu la chance, là aussi j'ai eu la chance, d'être en contact avec un des élèves de cette école qui a 72 ans maintenant et qui anime toujours un groupe de réflexion sur ce que c'est que le suivisme, la soumission sociale, la conformité. Mmh. Et finalement, qui dit « méfiez-vous de qui vous suivez ». Méfiez-vous de qui vous suivez. Et qui est une sorte de petit groupe d'anciens élèves, et pas seulement, de mise en éveil de la conscience de ce que c'est que l'être humain. C'est-à-dire un être fragile qui aime être ensemble et qui, pour le meilleur et pour le pire, peut aller dans des phénomènes de groupe qui peuvent entraîner jusqu'à ce que devient un nazi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un nazi ? C'est quelqu'un qui est un homme ordinaire, mais qui est capable, au bout d'un moment, de tirer une seule balle pour tuer à la fois un enfant et une mère. Dans la Shoah par balle, ce sont des gens, je dirais, comme vous et moi, c'est-à-dire qui sont conditionnés pour accomplir ce geste, avec parfois l'impression de faire leur travail, simplement faire leur travail. Donc c'est une vraie question qui doit jamais nous abandonner, qui doit toujours être présente en nous, c'est qu'est-ce que c'est que la soumission à l'autorité ? Qu'est-ce que c'est que, non pas le bien et le mal, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les nazis pensaient faire le bien. Donc le bien, c'était la race aryenne, c'était ça le bien. Donc qu'est-ce que c'est que ce qui sépare un homme honnête d'un salaud ?
Et alors, il y a plein d'histoires dans l'histoire. C'est extrêmement riche, même si ça tient dans un livre de 180 pages seulement. Mais justement, c'est là où je voulais en venir. Vous le mentionnez dans le livre que vous avez rencontré un de ses anciens élèves, Hervé Le Tellier, mais vous ne dites pas où, comment, pourquoi vous l'avez rencontré, etc. Et pareil pour le style, pareil pour les histoires, vous arrêtez, vous reprenez, etc. Vous économisez les mots en permanence, j'ai l'impression, vous allez à l'os tout le temps. Pourquoi vous avez choisi cette manière-là ?
Pour ce qui est de l'enquête, une fois de plus, je ne voulais pas trop raconter ce qui m'est arrivé assez facilement. Pour le style, je pense que c'est un style fluide. Je n'ai pas eu envie de faire des effets de style, pas de lyrisme, pas de... Il y a des moments où je m'emporte, mais ça reste de l'ordre du raisonnable. Dès que je sens que je suis insincère, que je suis dans quelque chose qui serait finalement... de l'ordre du faux, de l'ordre du falsifié, j'évite, parce que je pense que André Chaix mérite mieux que ça, quoi.
Pourquoi vous avez attendu 4 ans ?
Bon, j'ai pas attendu 4 ans. Je sais, sur d'autres projets littéraires, il se trouve que celui-là tombait avec une échéance des 100 ans, le centenaire d'André Chaix. J'ai pas voulu le rater. Donc j'ai interrompu un projet en cours pour écrire ce livre, ce qui m'a pris un an et demi à peu près. Et je suis reparti depuis sur d'autres projets.
Vous y pensez beaucoup, André, en ce moment ?
Je n'arrête pas d'y penser, puisque je fais, en fait, ce qu'on appelle la promotion d'un livre. Donc, évidemment, je suis amené à en parler souvent. Je ne suis pas encore retourné dans la maison, ce que je vais faire bientôt. Je pense que j'aurai un rapport différent à mon mur, forcément. C'est presque pour ça que je l'ai écrit. Pour avoir un rapport au mur qui soit un rapport plus... à la fois plus intime. Le travail a été fait, donc une sorte d'impression d'avoir accompli un boulot nécessaire. Et puis, peut-être aussi une intimité plus grande avec la maison.
Je pose la question parce qu'à la fin, on est presque amis avec André Chaix.
Oui.
Et bon, vous le connaissez encore mieux, vous êtes son meilleur ami, peut-être,
Non, je ne pense pas être son meilleur ami, mais je pense qu'il est nécessaire, lorsqu'on finit un livre, et qu'on a été aussi proche de quelqu'un pendant 180 pages, que je dis au début du livre... que je ne le tutoierai pas, et à la fin...
Non,
voilà.
Racontez pas la fin, surtout pas.
Mais bon, merci. C'est cette idée qu'on crée un lien, et que ce lien, c'est un lien qu'on crée comme auteur, mais qu'on crée aussi avec le lecteur, et qu'il y a une sorte de pudeur dont il faut se défaire à la fin.
Pudeur magnifique, le nom sur le mur, c'est chez Gallimard. Merci beaucoup Hervé Le Tellier.
Merci beaucoup.
Dans un instant, visite de bibliothèque, nous partons chez Isabelle Autissier. À tout de suite.
Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ? Prise de poids rapide ? Pieds et chevilles gonflés ? Fatigue excessive ? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
19h-20h, la voie est libre.
Nicolas Carreau.
Je ne sais pas pourquoi, les marins sont souvent des grands lecteurs et parfois aussi des poètes ou des romanciers. Isabelle Autissier est un peu tout ça. Son roman Le Naufrage de Venise sort au livre de poche, un roman dans lequel, ça y est, Venise a été engloutie et qui met en scène les années d'avant où l'on s'écharpait au lieu d'agir. Allons voir de quel livre Isabelle Autissier se chauffe. Bonjour Isabelle Autissier.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous, sur votre bateau. Ah bah non, On n'avait pas le budget, on n'avait pas pu aller à La Rochelle, oh, dommage.
C'est quand même pas si loin.
Ben ouais, je sais. Mais donc on est sur notre île à nous, c'est chez Sandrine Babu, la librairie L'Instant, rue de Lourmel, qui nous accueille quand on visite des bibliothèques, mais virtuellement avec ceux chez qui on ne peut pas aller directement. Est-ce que vous avez d'ailleurs, vous aviez des livres sur les bateaux, beaucoup ou...
Ah non, mais
vous n'avez pas le temps de lire.
J'ai un mur entier de livres, je ne sais plus où mettre les livres. J'en ai plusieurs centaines facilement. Et donc, il y a quelques années, j'ai fait faire même une bibliothèque sur un mur entier chez moi. Et en ramassant toutes les piles de bouquins qui traînaient partout, je les remplis. Donc, voilà. Donc, je suis revenue à la case départ. Je ne sais plus où les mettre.
Mais ça, c'est chez vous. Mais oui. Sur les bateaux?
Alors, sur les bateaux, quand c'était les bateaux de course, évidemment non.
Évidemment non.
Bah, le moindre gramme se pèse.
Ouais.
Vous connaissez l'histoire, on coupe le manche de la brosse à dents parce que on garde que la partie utile de la brosse à dents.
Je crois pas.
Donc, oui.
Oh, génial.
Non, mais dans un bateau de course, on se casse la tête comme des fous pour gagner quelques grammes, donc c'est pas pour emmener 10 kilos de bouquins, malheureusement. Souvent, j'en emmenais quand même un ou deux.
Ah, voilà. Même. Quoi alors?
Alors, j'avais pris une habitude, c'était comme pour la musique. J'ai une habitude, puisque j'ai participé à 4 tours du monde en solo, je n'emmenais que ce qu'on m'offrait pour que je l'écoute en mer ou pour que je le lise en mer. Et ça, c'est génial, parce que c'est un lien avec ceux que vous aimez et qui vous ont dit, tiens, tu liras ça en pensant à moi quand tu seras en mer. Donc du coup, c'était vraiment extrêmement éclectique.
Est-ce qu'on peut apprendre la voile en lisant? Je pense à un livre en particulier que j'ai, qui est très très bien fait, qui est le cours des Glénans, qui doit être à la 48e édition. C'est une sorte de bible comme ça, qui est dans tous les voiliers de plaisance. Il y a tout dedans, les vents, les
réglages. C'est pas dans le mien. Moi, j'ai un truc un tout petit peu plus sophistiqué, parce qu'on a la chance d'avoir en France quelqu'un qu'on baptisait le sorcier, qui est un navigateur encore, mais surtout qui a été un routeur, c'est-à-dire un météorologue de très très grand talent, Jean-Yves Bernaud, qui a commis deux bouquins sur la météo, etc. Donc ça, ils sont à bord. Le cours des Glénans, non, parce que je pense honnêtement ne plus trop en avoir besoin, mais évidemment, il y a plein de choses qu'on apprend dans les livres, par exemple la météo, par exemple la physique. Des bateaux, parce que les bateaux, c'est de la physique. Hein. Le vent qui pousse d'un côté, ça fait giter. De l'autre côté, il y a la quille ou la largeur du bateau. Enfin, voilà.
C'est des maths, c'est des calculs aussi.
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de calculs. C'est pour ça, je pense d'ailleurs, que les gens qui sont ingénieurs de formation, en course au large, par exemple, se débrouillent bien, parce que tout de suite, on sait de quoi on parle, les forces, tout ça. Voilà.
Mais c'est aussi, et c'est pas incompatible, de la poésie. Est-ce que quand on barre la nuit aux étoiles, est-ce que vous avez déjà pensé à des textes que vous avez écrits ensuite pendant ces moments-là pure poésie maritime?
Non seulement j'y ai pensé, mais je l'ai fait, puisque je présente un spectacle de contes avec un ami musicien, et c'est exactement ça. C'est des histoires de mer, alors quelques-unes, c'est plein de petits contes comme ça, des contes pour les adultes, hein, c'est pas un spectacle pour les enfants, qui sont parfois des souvenirs, mais parfois aussi des histoires complètement complètement poétiques, l'histoire d'un marin qui rencontre une sirène ou l'histoire des sardines ou je sais pas quoi. Donc moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans la mer, c'est que la mer est un univers sur lequel vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire de la science, vous pouvez faire de la poésie, vous faites du commerce, vous pouvez faire de la guerre, vous pouvez faire de la compétition, vous pouvez faire de la pure croisière et de l'émerveillement, vous pouvez faire avec les enfants, avec les grands, Donc la mer est un univers à part entière qui peut vous satisfaire, entre guillemets, de toutes les façons.
Et c'est de la beauté, de l'inspiration, mais ça peut être de la violence aussi. On a piqué, là, chez Sandrine Babu, Moby Dick de Melville, qui est une sorte de combat sur la mer entre l'homme et l'animal.
Oui,
vous aimez ce livre?
Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, bon, les grands classiques de la littérature maritime, j'aime bien. Ce qui est intéressant, c'est dans Moby Dick, qui fait que c'est un livre relativement actuel, finalement. C'est au fond cette question de l'être humain, Homo sapiens, vis-à-vis de la nature, et donc en particulier d'une force de la nature, en l'occurrence cette baleine insaisissable, très méchante, très voilà. Donc c'est intéressant parce que ça dénote toute notre anthropocentrisme, notre façon d'imaginer que la nature nous ressemble et que elle a des sentiments. Ce que évidemment, quand on est scientifique comme moi, on sait que ça n'est pas vrai. On peut d'un point de vue poétique le penser, mais le vent, il n'est pas méchant, il n'est pas gentil. Les baleines, elles ne sont pas méchantes, elles ne sont pas gentilles.
Ça n'empêche pas leur sensibilité.
On peut avoir une sensibilité. Mais là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore en pleine période où on voit les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va humaniser, en quelque sorte, les forces, aussi bien d'ailleurs, quand on voit des descriptions de tempête, ça peut être chez Melville ou chez d'autres, on a l'impression voilà, que le vent a une visée particulière par rapport aux hommes qui s'acharnent sur un bateau. Non, le vent, c'est le vent. Il ne s'acharne pas, c'est juste nous qui avons des bateaux qui ne sont pas bien faits.
Vous avez quand même établi une liste de livres que vous avez chez vous, et on les a là, et notamment il y a Nicolas Bouvier, L'usage du monde, qui est un livre magnifique, qui est un livre d'abord sur le voyage et sur le déclencheur du voyage. Qu'est-ce qui fait qu'on part et pourquoi on part et ce qui se passe quand on voyage?
Oui, et puis moi, cette phrase qui pour moi est emblématique, c'est pas vous qui faites un voyage, c'est le voyage qui vous fait, et qui est au fond le fondement de l'usage du monde, quoi. C'est comment est-ce que... Et c'est vrai aussi, évidemment, pour les marins. Comment est-ce qu'à un moment donné, on abandonne sa certitude et on s'abandonne à l'incertitude du voyage? Et c'est ça qui est intéressant. Si moi, je sais à l'avance ce qui va se passer quand je pars en mer, j'irai peut-être quand même parce que c'est sympa, mais je manque totalement de la dimension qui fait que la veille je dors pas, que j'ai fantasmé pendant je sais pas combien de jours et de nuits sur ce qu'allait être cette navigation, encore à mon âge si j'ose dire.
Est-ce que vous iriez si vous aviez une boule de cristal qui vous disait cette fois c'est le naufrage? Vous iriez quand même?
Mais attendez, on va tous mourir, hein.
Non, mais pas forcément. Ça peut être le désert. Vous connaissez pas tout, mais vous savez qu'il va y avoir un naufrage.
Non, mais quand vous sortez d'ici, vous savez pas si vous allez pas vous faire écraser par une voiture. Donc.
Vous le savez.
Si vous le savez, je pense que ça change pas grand-chose. Moi, je, par exemple, l'immortalité, c'est un truc que je trouverais abominable parce que la seule chose qui donne du prix à la vie, c'est qu'elle s'arrête un jour. Sinon, ça n'a aucune valeur. Voilà. Donc oui, je sais que quand je pars en mer, et j'en suis toujours extrêmement consciente, quand je pars en mer, oui, il y a un risque. Et c'est pour ça que je passe des jours, des mois et parfois des années à me préparer et à préparer le bateau. Et maintenant que je navigue beaucoup en équipage, c'est encore renforcé par la responsabilité de moi en tant que skipper du bateau, de la vie des autres. Donc c'est encore une autre histoire. Il y a une chose qui est d'être en danger vous-même parce que vous décidez de faire quelque chose. Il y a une autre qui est d'entraîner des gens avec vous sur un bateau. Donc voilà, oui, je crois qu'à un moment donné, quand on s'abandonne, on s'abandonne. Et si c'est l'heure, c'est l'heure.
L'usage du monde, vous l'avez lu quand, vous vous souvenez?
Oh, je l'ai lu il y a très longtemps. Je l'ai lu, qu'est-ce que je pouvais avoir aux alentours de 25 ans, peut-être. Et c'est quand même un livre qui m'a beaucoup marqué pour ça, parce que peut-être j'étais justement à ce moment-là de ma vie où moi je sortais de mon école d'ingénieur agronome à Lyeut. Je pouvais avoir une carrière et une vie relativement plus dans la certitude. Je pouvais décider avec mon diplôme d'aller, je sais pas où, à Ifremer ou dans n'importe quoi, enfin voilà, de faire et de me créer une vie sûrement passionnante parce que j'aurais adoré ça. Et je crois qu'à un moment donné, au fond, ce que dit Nicolas Bouvier, c'est que cette incertitude et cette mise en jeu de soi-même, d'abord, elle vous ouvre les yeux sur plein de choses et elle vous fait grandir peut-être plus vite encore que dans une vie peut-être plus sédentaire et peut-être moins exposée. C'est-à-dire que c'est pas le risque pour le risque, on va pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais à un moment donné, d'une part, il y a cette force de se mettre en jeu. Et puis il y a cette obligation qu'on trouve beaucoup chez Bouvier de vivre l'instant, qui a du coup une force et une importance extrêmement grande. Parce que on est dans un inconnu. Et je trouve que ça, c'est au fond, c'est une force vitale extrêmement importante pour moi, en tout cas.
Merci beaucoup, Isabelle Autissier.
Merci à vous.
Retour en studio à Europe 1 et je rappelle Le naufrage de Venise au livre de poche signé Isabelle Autissier. Dans un instant, encore des livres, romans jeunesse et bandes dessinées. À tout de suite. Et on écoute Chris Isaac sur Europe. Blue Hotel, on a lonely highway. Blue Hotel, life don't work out my way. Chris Isaac sur Europe.
Europe 1, 19h-20h, la voix est libre.
Nicolas Carreau.
Les voici, les voilà, lu et approuvé le kiosque des chroniqueurs de La Voix est libre avec notre libraire du soir, Sandrine Babu, librairie L'Instant, rue de Lourmel à Paris, chez qui on était tout à l'heure d'ailleurs. Merci pour l'accueil, Sandrine.
Avec plaisir.
Avec Isabelle Autissier. Héloïse Goua, littérature jeunesse, et le camarade Sébastien Bordenave pour la bande dessinée. Bonsoir tous les deux.
Bonsoir tout le monde.
Honneur au libraire, comme toujours. De quoi nous parlez-vous, Sandrine?
Alors, je vous parle de science-fiction. Ça change un peu. Science-fiction, mais aussi polar. Donc, c'est chez Rivage Noir. Ça s'appelle L'absence selon Camille, de Benjamin Fogel.
Très bien.
Alors, c'est une trilogie qui s'appelle la trilogie de la transparence. Donc, le premier, c'était La transparence selon Irina, ensuite le silence selon Manon, et donc l'absence selon Camille. Alors, il nous projette dans un temps pas si lointain, mais où la technologie a beaucoup évolué, mais il se sert quand même de ce qui existe déjà pour l'amplifier. Et donc, c'est plus le capitalisme, c'est la transparence. Donc, toutes nos données sont en accès libre sur Internet, on ne peut plus rien cacher. Mais il y a des opposants qui cherchent, enfin, qui trouvent que trop, c'est trop, il faut garder un peu d'anonymat, en tout cas dans la vie réelle. Donc, ça s'appelle les obscuranet. Alors, il est très fort, Benjamin Fogel, parce qu'il réussit à créer des nouveaux mots. Par exemple, il y a le score Admiranet. En fait, on est pucé dès la naissance. Et sur les réseaux, on a tous un score qui nous aide à trouver du travail, à trouver l'amour éventuellement. Donc, ça fait un peu peur, quand même. Score de popularité.
Si on se comporte bien, on a des points, comme dans Black Mirror.
Exactement. Voilà. Et dès qu'on fait une connerie, notre score diminue. Alors, Benjamin Fogel, lui, il bosse dans le numérique. Hein, il est à l'aise avec son sujet. Donc ça commence avec des tags qui fleurissent un peu partout dans la ville, transparence, on vous ment, donc les obscuranets cherchent à révéler un scandale d'État en cette période d'élection. Et on va suivre, c'est un roman choral aussi, on suit un jeune homme qui cherche son père, qui soupçonne d'être le chef obscuranet. Il y a un flic avec sa fille, alors le flic il a 85 ans, mais avec les nouvelles techniques, on dirait il est agile comme un jeune homme. Donc c'est extrêmement rythmé. Il y a un petit côté insurrectionnel. Moi, ça me fait penser à la super série que je regarde en ce moment qui s'appelle La Fièvre. Je ne sais pas si vous la connaissez. Parce qu'il sait bien manier le rythme. Hein, le rythme. Donc il y a vraiment un côté addictif. À la fois, on réfléchit et c'est très distrayant. C'est vraiment un très, très bon livre.
Wow. Puis toujours, en littérature, c'est toujours plus fort, plus profond que la télé, n'est-ce pas?
Ça dépend.
Puis alors, juste un mot quand même, Rivage Noir, ils font des couvertures exceptionnelles tout le temps. Benjamin Fogel, L'absence selon Camille. Merci Sandrine. Hello, c'est à vous.
Vous connaissez le jeu de paume?
Oui. La salle ou le tennis?
Le tennis ou la salle. Enfin, qu'importe, parce qu'aujourd'hui, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle du jeu de paume. P-O-M, paume, paume, c'est le nom d'une petite fille. Et c'est surtout le jeu de paume, le titre de ce très joli album illustré de Léa Louis. J'espère que vous êtes prêts et concentrés parce que ce livre prétend nous raconter l'histoire la plus incroyable de toutes celles imaginées jusque-là.
Carrément.
Rien que ça. Paume est une petite... Je ne sais pas comment ça se prononce.
Mais je sens que vous hésitez.
Paume.
Bon, P-O-M, quoi.
P-O-M. Paume, comme le fruit. Paume est une petite fille, non pas de 7 ans et demi, mais de 7 ans trois quarts.
Ça compte.
Oui. À cet âge-là, ça compte. Nous, on compte moins étonnamment, nos âges, les trois quarts. Alors, Pomme, elle se balade toujours avec un sac rempli d'objets très utiles, comme des aiguilles à tricoter, du scotch ou encore des cailloux, très importants, les cailloux. Le truc de Pomme, c'est d'enfiler ses bottes en oubliant ses chaussettes et de sautiller plutôt que de marcher. Et ce matin-là, Pomme sautille vers le parc pour débusquer un certain ours brun dont tout le monde parle dans le quartier. Selon les rumeurs urbaines, cet immense ours sauvage aurait quitté sa montagne et ses forêts pour créer la zizanie en ville. Et pourquoi pas croquer quelques enfants sur son chemin. Ça, c'était sans compter sur Pomme, qui n'a presque peur de rien, à tel point que la petite cocotte zigzague entre les tilleuls et les cyprès chauves du parc pour serrer la patte à cet ursidé géant. Mais rien à l'horizon. RAS. Pomme ne respire que le parfum de l'herbe humide et le froid glacial qui lui titille les narines. Elle décide donc de grimper en haut d'un joli séquoia qui sent bon la réglisse, histoire de voir le monde d'en haut, de s'élancer vers le ciel pour caresser les nuages roses. Je vous laisse découvrir.
Froid aux yeux, hein.
Non, elle a pas froid aux
c'est
yeux.
Beau,
elle a peur de rien, Pomme.
C'est très beau.
Je vous laisse découvrir si oui ou non Pomme finit par mettre la main sur cet ourson brun que tout le monde craint. Le suspense est immense. Je peux juste dire, très important, on nous précise à la fin du livre qu'aucun doudou n'a été volontairement perdu pour la création de ce livre. J'ai beaucoup aimé la poésie de cet album, tant dans le texte que dans les illustrations.
Ouais, très joli.
Tout est délicat.
Ouais.
Oui.
Et un grand format type BD, quoi.
C'est ça. En tout cas, moi, cet ouvrage m'a rendue heureuse. Jeu de paume de Léa Louis, c'est aux éditions courtes et longues.
Merci Héloïse Goua, Sébastien Bordenave de la bande dessinée.
Ouais, un road movies en BD d'un genre un peu spécial. D'abord parce qu'il se passe au Maroc, ensuite parce que les trois personnages principaux sont des femmes, et enfin parce que deux d'entre elles tentent de se faire avorter. Alors, faut savoir qu'au Maroc, la religion et la loi, elles sont d'accord. Hein. Interdiction de l'IVG, on risque la prison. La BD s'appelle « Des femmes guettant l'annonce ». Alors, les femmes, c'est les trois héroïnes. Et l'annonce, c'est celle du gouvernement marocain. Parce qu'il y a un débat, justement, sur l'IVG. Bon, il va tourner court, je spoil. La scénariste journaliste Fedwa Misk a eu à cœur, pour cette première BD, de faire figurer toutes les opinions dans la BD. Les dessins sont dynamiques de haut de masseau. C'est drôle, émouvant, éclairant, poétique, plein de suspense. Ça se passe entre Agadir et Casablanca. Donc, bref, c'est top. C'est chez Sarbacane et ça s'appelle donc « Des femmes guettant l'annonce ».
Parfait, une petite deuxième peut-être.
Allez, Arca, ou la nouvelle Eden de la science-fiction. Oula. Grosse BD chez 404 Graphique, et pourtant 22€. Normalement, je dis pas le prix, mais là, regardez, c'est un bel objet. On peut caresser la couverture, Nicolas, vous allez aimer ça.
Ah oui, c'est un peu rugueux.
Voilà, ça s'appelle Arca ou la nouvelle Eden. Super dessin de Jesse Lonergan. On part avec lui dans le cosmos. Alors, l'histoire, la Terre a brûlé, mais les plus riches ont construit une arche de Noé spatiale. Bon, pour eux, hein, je vous cache pas. Toute une